Humeur de ville, une émission présentée par cadredeville.com, la plateforme d'information des décideurs des projets urbains. Lucie Romano et Rémi Cambo.
Bonjour à tous, Humeur de Ville continue de vous parler innovation dans l'aménagement en Île-de-France. L'équipe est heureuse de vous retrouver après la pause estivale. Notre invité, Laurent Girometti, est le directeur général d'EPA Marne et EPA France. Mais avant de l'entendre, Rémi Cambo, le rédacteur en chef de Cadre de Ville, nous parle déjà des deux EPA, et de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée.
Humeur de Ville, l'édito de Rémi Cambo.
Oui, évoquer EPA Marne et EPA France, c'est un peu convoquer la mémoire de nos pères, puisque l'EPA Marne va fêter ses 50 ans l'an prochain et EPA France ses 35 ans. Et en même temps, c'est se projeter dans l'avenir, puisque ces deux établissements publics se sont lancés un défi, celui de pérenniser sous des formes nouvelles les missions qui leur ont été données depuis donc plusieurs années, n'est-ce pas ? Le général de Gaulle avait déclaré que créer les villes nouvelles, c'était, je cite, l'action la plus durable conduite par l'État dans le domaine de l'aménagement. Bien sûr, le général donnait au mot durable un autre sens que celui qu'il a pris aujourd'hui, mais le défi de la durée, au moins, a été relevé. En 1992, Marne-la-Vallée représentait 15 000 hectares, où vivaient 218 000 habitants dans 26 communes. C'est après 20 ans d'existence de la ville nouvelle. Aujourd'hui, l'intervention des EPA s'étend sur le double de surface et concerne 610 000 habitants dans 44 communes. Mais ces EPA interviennent selon des modes beaucoup plus variés, car la gouvernance institutionnelle et opérationnelle s'est profondément modifiée. C'est sans doute l'autre grand défi qu'a relevé l'État. Le troisième défi, c'est que, à la durée dans le temps, s'est ajouté la recherche de la réduction des impacts environnementaux, ce que le directeur général de ces deux EPA, que nous allons entendre interrogé par Lucie Romano, ce que Laurent Girometti appelait un humanisme écologique lors des cinquièmes entretiens de cadre de ville en 2020. Alors, l'EPA Marne a dirigé dès ses premières années un véritable laboratoire d'expérimentation architecturale et urbaine en rupture avec le modèle des grands ensembles dont les défauts se faisaient déjà sentir. Et sans pour autant revenir à la rue bordée d'immeubles, EPA Marne puis EPA France ont marqué l'histoire de l'urbanisme, que l'on pense à l'Arche Guédon, au coteau du Val Maubeué, à la Noiseraie ou au château d'eau du jeune Port-Zempart, ou encore à l'invention de la participation des habitants avec Lucien Kroll. Une ville très diverse a poussé, mélangée dans des styles avec des vieux villages, et puis le temps des lotissements de maisons tout autour de 4000 hectares de parcs, de bois et de forêts. Voilà, tout ça a produit une grande diversité, une ville tout à fait atypique. Cet ensemble lointain, et on se demande aujourd'hui comment ces deux EPA maintiennent une tradition d'invention et d'innovation, encore expérimentale, au moins pionnière, dans la conception d'une ville durable. Nous en aurons un exemple dans le numérique aux entretiens du cadre de ville le 5 octobre prochain, mais nous allons parler tout de suite avec vous, Laurent Girometti.
Humeur de ville, l'interview.
Bonjour Laurent Girometti.
Bonjour.
EPA Marne et EPA France, ce sont plus d'une soixantaine d'opérations. Nous allons en cibler certaines pour évoquer la manière dont les établissements que vous dirigez adaptent leurs méthodes aux exigences du moment. Pour commencer, je m'arrête sur l'appel à projet lancé au printemps dernier pour créer des laboratoires urbains, des démonstrateurs en quelque sorte, dans le cadre du quatrième programme d'investissement d'avenir, le PIA4, qui consacre 675 millions à la ville durable. Vous venez de déposer un dossier, espérez bien être retenu pour porter une démarche exemplaire en termes de sobriété et de mutation foncière. Le sujet que vous avez proposé, c'est l'évolution d'un centre commercial de périphérie à désimperméabiliser. Il se situe à cheval entre Chanteloup et Montévrain, respectivement sur les axes du Chêne Saint-Fiacre et du Clos Rose, sur lesquels EPA Marne sera donc amené à réintervenir.
C'est ça. C'est un endroit que je trouve très intéressant, en effet, dans son... C'est pour ça qu'on l'a proposé au laboratoire urbain, hein, d'ailleurs. C'est un lieu qui a été aménagé il y a une vingtaine d'années, principalement, donc ça n'est pas si ancien, et on est sur des actes qui ne sont pas terminés au demeurant. Rémi le rappelait à l'instant, ça dure longtemps l'aménagement, hein, décidément. Néanmoins, on arrive dans des dernières phases de ZAC, et en effet, on se réinterroge sur un certain nombre de dispositions urbaines. Et on est sur un endroit dont je pense qu'il est assez emblématique de quelque chose qui peut se passer à de nombreux autres endroits. C'est-à-dire que le centre commercial de périphérie, c'est un objet qui est quand même tout à fait commun, courant. Il y en a à plein d'endroits différents. Et c'est peut-être demain un lieu d'une fabrique urbaine un petit peu différente. On est sur un endroit qui fonctionne très bien. Je dirais, dans l'absolu, il n'a pas besoin d'être réinvesti. En tout cas, il ne paraît pas avoir besoin d'être réinvesti. Et justement, je pense que c'est un bon moment pour y faire quelque chose. Pour
sans ne pas, attendre qu'il soit
voilà,
trop tard.
Pour ne pas attendre que commence à apparaître un moment des signes d'obsolescence ou de dégradation, ce qui, encore une fois, n'est absolument pas le cas. Et puis, on est sur une lisière assez intéressante, puisqu'on est entre deux villes. Donc, vous avez deux développements urbains qui sont faits de part et d'autre de ce centre commercial. Et finalement, on n'est pas très loin, y compris de zones de transport bien desservies, mais aussi de zones agricoles. Et finalement, on est donc sur un lieu de périphérie qui réunit en très peu d'espace un grand nombre de fonctionnalités. Des fonctionnalités urbaines, de l'habitat, du commerce, mais aussi de l'agriculture tout près, du transport, et on est sur une zone qui est bien desservie en voiture, mais qui n'est pas si mal desservie que ça en transport collectif. Et puis aussi des possibilités d'améliorer les espaces publics, et y compris de retrouver des chemins ruraux qui justement ont aussi été interrompus par ce fameux centre commercial. Et donc toute l'idée, c'est de se dire, mais comment on peut faire évoluer cet endroit pour lui donner peut-être plus d'urbanité? On ne va pas rompre avec la fonction commerciale, mais peut-être l'organiser différemment. Et un des leviers importants pour pouvoir aussi opérer cette mutation, c'est de travailler sur le sujet, justement, et c'est ce qui est aussi à l'origine de la réflexion, hein, imperméabilisation, désimperméabilisation, utilisation ou pas d'un foncier. On a encore de la place, en fait, dans la ZAC, donc on pourrait urbaniser la totalité. Le principe, c'est de se dire, on ne va pas urbaniser tout ce qu'on avait prévu d'urbaniser, on va en garder une partie qui va, du coup, rester agricole, y compris avec de l'agriculture de proximité, ça, c'est assez intéressant. Et puis par ailleurs, on va essayer de faire muter et d'hybrider, c'est le mot qu'on emploie dans le dossier, d'hybrider finalement ce secteur commercial en se disant, est-ce qu'on peut, par exemple, traiter les parkings sur moins d'espace, amener du silo, du coup désimperméabiliser une partie, amener des fonctions commerciales plutôt dans des rez-de-chaussée avec un peu d'habitat au-dessus, habitat qu'on souhaiterait aussi assez atypique, assez qualitatif, dans une zone où on est à la fois en secteur, comme je disais tout à l'heure, périurbain mais bien desservi. On pense là qu'on a un vrai projet d'avenir. Alors c'est beaucoup plus compliqué qu'une urbanisation lambda, et ça nous amène par ailleurs à travailler avec les propriétaires fonciers. C'est-à-dire qu'on est encore détenteurs de fonciers dans ce secteur, hein, notamment les fonciers qui n'ont pas encore été urbanisés. Par contre, le centre commercial, il n'est plus à nous, forcément. Et donc, il faut travailler avec le propriétaire du centre commercial. Alors, on a de la chance, il veut bien. Bon, donc, et les élus ne sont pas opposés à réfléchir à ces choses-là. Donc on y va. Et on pense qu'en effet, le terme de laboratoire urbain qui a été lancé dans le PIA correspond assez bien et qu'on pourrait, pourquoi pas, essayer de faire école.
Et oui, de répliquer ailleurs. On touche là du doigt l'enjeu de la sobriété foncière, hein, qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Épargne réfléchit de plusieurs manières à cette question-là. Évidemment, c'est un sujet complexe. Je peux citer notamment le fait que vous ayez touché 12 millions d'euros du fonds Friche pour la ZAC Marne-Europe à Brivilliers-Champigny, donc ça c'est déjà un aspect, mais il y en a d'autres. Par exemple, une concertation un peu d'un nouveau genre qui a été lancée pour l'écoquartier des Roseaux à Montévrin, parce que vous voulez y faire atterrir, en tout cas c'est dans les options, une tour de 58 mètres, c'est quand même une option très avancée, disons, sur une emprise réduite. Donc l'idée c'est d'arriver dans un endroit où il n'y a pas vraiment de grande hauteur jusqu'alors et d'arriver à emmener la population à accepter ça, pour des raisons environnementales notamment.
Et alors le projet de tour à Montévrin, malheureusement, je dis malheureusement parce que moi on a travaillé dessus pendant 3 ans et je pense que c'était un projet extraordinaire. Néanmoins, il ne va pas pouvoir se faire dans les formes où il était. Hein. Justement, là, pour le coup, la discussion avec l'environnement, avec le voisinage, oui, ne permettra pas de faire sortir ce projet. On va faire autre chose, on va faire autrement. Hein. Il faut savoir tirer les conclusions de ces échanges complexes, forcément, avec le voisinage.
C'est d'ailleurs un des points de le signaler, parce que justement, oui, l'idée de la sobriété foncière et de la question foncière, c'est aussi dans la négociation et ça se fera petit à petit, a priori.
Tout à fait. Alors, d'une manière générale, comment aménager au mieux des ZAC en cours, hein, là on était vraiment sur des opérations en cours, et comment on trouve les bons compromis entre justement densité, espace au sol, émissions carbone. Je dirais, c'est notre boulot au quotidien. Et en plus, il faut en effet réussir à le faire passer auprès des riverains. C'est pas facile tous les jours. Ce qui est intéressant sur le sujet sobriété foncière, alors nous, on est évidemment concernés au premier chef. Hein, là aussi, Rémi rappelait l'historique, mais au départ, c'est sûr que la création d'une ville nouvelle s'est faite sur du foncier agricole, des acquisitions foncières massives au départ. Et aujourd'hui, on est sur un modèle qui est hybride lui aussi, c'est-à-dire qu'on a une grosse part de nos interventions qui est encore dans l'utilisation, dans la suite de la ville nouvelle. Ville nouvelle qui prend beaucoup de temps, évidemment, à se faire vu l'ampleur. Donc on a encore, en effet, des projets en extension, ils sont vraiment loin d'être négligeables. On essaye de les faire selon vraiment les meilleurs standards. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle l'urbanisation efficace, partant du principe, me semble-t-il, qu'on n'arrivera pas, et qu'il y a de toute façon une notion de trajectoire, à répondre à tous les besoins uniquement en renouvellement urbain, en tout cas sur le court moyen terme. Je dirais l'utilisation optimale d'un certain nombre de fonciers et d'opérations fait quand même vraiment partie de nos sujets, de façon à les traiter le mieux possible. Et on a par ailleurs, vous le citiez, des opérations qui sont plus de l'ordre du recyclage urbain. Pour faire simple et pour schématiser, sur la partie est de notre territoire, on est plutôt en développement urbain, et quand on est sur la partie ouest, on est plutôt dans des opérations d'intensification ou de redéveloppement ou de recyclage, avec d'ailleurs de nouvelles interventions qui se font sur des secteurs qui ont pu être aménagés au tout début de la ville nouvelle, mais aussi pour des interventions qui se passent, vous le citiez tout à l'heure, notre périmètre a été étendu depuis quelques années, donc on a aussi toute une partie de notre périmètre d'intervention qui n'a pas été concernée par la ville nouvelle. Donc il y a aussi du recyclage ou de la reformulation urbaine dans ces secteurs-là. Ce n'est pas du tout les mêmes modèles économiques, bien évidemment. On a, on a les deux et on s'en aperçoit bien.
Et vous avez aussi la question agricole qui est présente dans le traitement de vos ZAC. La ville nouvelle s'est développée, vous le disiez, sur du foncier agricole. Désormais, la limite de l'urbanisation, elle se pose un peu différemment avec une activité agricole productive qui parfois est incluse dans les secteurs de projet. Dans votre projet stratégique et opérationnel 2020-2024, vous avez identifié 100 hectares initialement fléchés pour de l'urbanisation, des fonciers qui n'ont pas été utilisés finalement. Au bout d'un an et demi, 75 hectares sont déjà sous promesse avec des agriculteurs. Et vous avez même ajouté 50 hectares qui pourraient aussi être fléchés sur de l'agriculture productive, surtout en lisière de secteurs urbanisés. Quelle est votre stratégie sur la matière agricole ?
Une réflexion qui est assez fertile, sans mauvais jeu de mots. Tout notre point de départ, ça a été de se dire il faut sortir de cette opposition caricaturale entre aménagement, agriculture. Et c'est vrai qu'autour des débats sur la sobriété foncière, c'est évidemment une des composantes. On avait commencé avant à y réfléchir, avant ces débats sur la sobriété foncière. Mais sortir de cette opposition un peu binaire, on consomme de la terre agricole, c'est la ville contre la campagne, etc. etc. En réalité, tout notre intérêt, c'est que les deux fonctionnent ensemble. Quelles sont les réflexions sous-jacentes ? La première, je la citais tout à l'heure. Dans les fonciers dont nous disposons, il faut qu'on fasse des urbanisations qui soient plus efficaces. Donc quand on va être encore en urbanisation, comment on va faire en sorte, entre guillemets, d'épargner du foncier et peut-être du coup d'en restituer une partie, soit à des développements naturels, soit à de l'activité agricole. Première réflexion. Deuxième réflexion, ce sujet sur la sobriété foncière amène aussi à réfléchir sur la limite de l'urbanisation. Où est-ce qu'on pose la limite ? Comment on fait la transition entre ce qui est urbanisé et ce qui ne l'est pas ? Le troisième constat, c'est que, par contre, la ville, elle est là, aujourd'hui. Après 50 ou 35 ans d'existence, beaucoup de développements urbains ont eu lieu. Néanmoins, il reste une part importante d'activités agricoles sur notre territoire, d'une part parce que tous les terrains n'ont pas été achetés non plus à l'époque, mais aussi parce qu'une partie est restée, en effet, sous forme finalement de réserves foncières, sous convention d'occupation précaire. Et donc toute la question, c'est de se dire, mais finalement, ces terrains qui pour partie d'ailleurs sont restés comme ça en occupation précaire agricole, mais sur des très longues périodes, avec une agriculture conventionnelle qui voisine pas forcément toujours très bien avec les développements urbains, je rappelle à la fois finalement les demandes souvent exprimées par les urbains d'une alimentation plus saine, de circuits plus courts, mais aussi les craintes qui peuvent être liées à l'utilisation de produits phytosanitaires, etc. Donc la ville et la campagne peuvent faire bon ménage, mais il y a des fois où il y a quand même un peu de conflit. Donc comment on peut résoudre tout ça et finalement aboutir à du circuit court, à une alimentation plus saine, évidemment on ne couvrira pas tous les besoins, à quelque chose qui interagit positivement entre la ville et la campagne et l'activité agricole qui est juste à côté, ça a vraiment été ça les déterminants de notre réflexion. Et donc, tout notre sujet, ça a été de dire, mais finalement, comment on peut susciter ou favoriser des projets agricoles, on va dire, vertueux, biologiques, notamment, qui puissent justement entrer dans cette logique de circuit court. Et ça a été ça notre réflexion à la base dans le projet stratégique. Alors, on avait à Montévrin et Chanteloup, d'ailleurs, qui est décidément une terre d'innovation, on avait déjà un premier projet dit de cœur agro-urbain qui a permis... qui permet de développer une vingtaine d'hectares de maraîchage bio sur, en effet, des terrains qui, au départ, devaient être urbanisés, puis finalement qui ne le sont pas parce qu'on a fait un peu plus dense, hein, de fait.
Ça vous a permis d'expérimenter aussi un modèle
ça
économique.
Ça nous a permis d'expérimenter un premier modèle, et je dirais aussi de tirer des enseignements, parce que cette première tentative agricole pour ce qui concerne Épamarne, c'était quand même partie d'une vision d'urbaniste, hein, l'atelier Philippe Madec notamment, et ensuite il a fallu faire rentrer des projets agricoles dans les cases, ça n'est pas le plus simple. En fait, la meilleure manière, c'est de travailler avec les agriculteurs et d'avoir des projets agricoles et d'essayer de les faire déboucher, plutôt que de se dire d'abord sur une réflexion urbaine, tiens, là je mettrais bien de l'agriculture et puis après je vais faire venir un projet agricole. En fait, c'est plus simple quand ça part de l'agriculteur.
Donc c'est comme ça que vous procédez vous
et aujourd'hui, c'est plutôt comme ça qu'on procède. Et donc les autres projets qu'on a pu faire émerger et accompagner, je dirais, à Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, là, on est effectivement sur des terres qui avaient été acquises au départ pour faire du développement urbain. On a dit, ceux-là, de toute façon, ils sont, entre guillemets, sanctuarisés pour de l'agriculture. Ils font partie d'une sorte de ceinture verte autour de Bussy-Saint-Georges où on développe beaucoup. Il y avait des projets agricoles, finalement, des agriculteurs soucieux de passer dans ce nouveau modèle. Ok, travaillons ensemble. Et en effet, on a pu avancer. Et cette réflexion-là, l'idée... aussi, c'est de la faire progresser. Et comme vous le disiez, on a finalement identifié encore d'autres possibilités, d'autres terrains, donc peut-être pour développer ce modèle. Autre point important, et c'est la suite de la réflexion, alors on ne l'avait pas envisagé dès 2019, mais ça nous est venu cette année. Dans le cadre du plan de relance, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par le ministère de l'Agriculture pour des projets alimentaires territoriaux.
Justement, j'allais vous en parler. Vous labellisé par le gouvernement là, très récemment avec trois communautés d'agglos, Vallée de la Marne, Marne-et-Gondoire et Val d'Europe. Et à ma connaissance, vous êtes le seul aménageur à faire partie justement d'un PAT, d'être engagé dans un PAT, donc projet alimentaire territorial. Voilà, en quoi ça va irriguer vos opérations? Et puis, vous m'aviez parlé d'une dimension intéressante autour de la compensation agricole. Oui. Donc ça vous permettra de travailler aussi finement sur ces questions-là.
Alors tout à fait. Vous voyez, comme quoi en partant d'une réflexion, c'est souvent comme ça, hein, c'est une réflexion en entraîne une autre, puis il y a une opportunité et on finit par développer des choses de plus en plus intéressantes, je l'espère. Donc la suite logique de ces prémices-là d'intervention agricole, quand on a vu le sujet du projet alimentaire territorial, c'est un sujet qui intéresse au premier chef les collectivités. C'est-à-dire que la question des circuits courts, la question de l'alimentation saine à proximité des habitations, ça les intéresse, ça les anime. Et donc, on s'est dit, ça pourrait être intéressant d'avoir une candidature finalement commune, collective, pour éviter le reproche qui pouvait être fait parfois au projet alimentaire territorial d'intervenir à des échelles qui sont un peu trop petites. Donc là, on s'est dit, on se groupe. Et en très peu de temps, on a pu, avec les trois agglos, effectivement, monter un dossier commun et obtenir cette labellisation, qui est en effet une première, à ma connaissance, sous cette forme-là. D'ailleurs, au départ, on n'était pas très sûr qu'un aménageur puisse déposer un dossier de projet alimentaire. On l'a vérifié avant de déposer. Et ça a été plutôt bien accueilli du côté des services qui instruisaient le sujet. Donc là, tout notre enjeu maintenant, qu'on a cette labellisation, c'est en effet de faire aboutir des projets. On en a déjà identifié quelques-uns avec les collectivités, mais on est vraiment en cours. Et la couche supplémentaire, ça je ne sais pas encore si ça fonctionnera, mais ça nous semblerait pertinent. Vous savez que depuis quelques années, ça a été institué je crois en 2016, il y a un mécanisme dit de compensation agricole qui a été mis en place. C'est-à-dire que quand vous faites de l'aménagement qui fait disparaître, entre guillemets, de l'activité agricole, il y a un mécanisme de compensation qui a été mis en place par la loi. On va avoir à le mettre en œuvre sur un de nos futurs projets, là, qui est en cours de préparation.
Une zone d'activité, hein, je crois.
Une zone d'activité, effectivement, alors dont je précise d'ailleurs qu'elle va utiliser du foncier qui est sous convention d'occupation précaire. Alors, il y avait tout un débat à se dire, non mais ce foncier, il a bien été acquis, certes il y a longtemps, pour faire du développement urbain, donc quelque part... financièrement, ça pouvait nous faire... ça pouvait nous paraître curieux de dire, mais finalement, on a déjà acheté, on a déjà compensé, c'est déjà prévu de longue date, on est sous occupation précaire, faut-il vraiment faire une compensation environnementale? Et on a dit, Allez, allons-y. Et justement, essayons de voir si ce mécanisme, plutôt que d'être une espèce d'obligation à laquelle on essaierait de résister, est-ce qu'on pourrait pas en faire quelque chose de positif ? Et donc, ce qu'on est en train d'essayer de voir, c'est finalement ces compensations agricoles, plutôt que de juste faire un chèque, est-ce qu'elles peuvent pas bénéficier à des projets locaux et qui s'insèrent dans ce projet alimentaire territorial ? Du coup, ça nous permettrait de démultiplier un peu l'effet de levier et du coup d'avoir un levier encore plus fort sur des questions d'évolution ou de conversion agricole. Toujours par contre, en discussion avec les agriculteurs, on n'est pas les mieux placés pour faire des projets agricoles. Mais donc en tout cas, cette idée-là, en effet, on essaye de la porter, on essaye de la pousser. Et quelque part, c'est l'idée de se dire, mais localement, en tout cas à l'échelle de notre intervention, on peut peut-être finalement transformer les contraintes en opportunités et du coup avoir quelque chose qui, à la fin, soit meilleur sur le plan de la biodiversité, parce que évolution agricole, soit meilleur sur le plan des circuits courts, et finalement utilise opportunément un mécanisme sur lequel on est un peu obligé, celui des compensations. Vous voyez, donc finalement, peut-être qu'on va réussir, avec ces contraintes-là, à faire quelque chose d'intéressant.
Entrer dans un cercle vertueux. Merci beaucoup, Laurent Girometti. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser, mais en fait, l'heure a tourné trop vite. Donc, je voulais évidemment vous parler de la démarche de chrono-urbanisme, le recensement de ce qui est accessible en moins d'un quart d'heure à pied dans vos opérations que vous avez lancées. Il y a aussi, bien sûr, le bas carbone, hein, qui est un élément fort aussi de votre travail, avec notamment une expérimentation autour du bois paille. Ça, on en reparlera aussi à d'autres moments. Je voulais encore parler du référentiel sur la qualité dans le logement, sur lequel vous avez travaillé avec François Leclerc, l'architecte. Mais ça aussi, on en reparlera de toute façon, je pense, à la rentrée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci à vous, auditeurs, et bonne reprise à tous.
Humeur de ville, une émission présentée par cadredeville.com, la plateforme d'information des décideurs des projets urbains. Lucie Romano et Rémi Cambeau.